Les séminaires du Collège de France.
Donc on va faire la remise des prix pour les Challenge 2024. Je vais passer la parole à Enzo Dalbi, donc de l'Institut Louis Bachelier, qui a organisé à nouveau toute la saison 2024 et qui va nous faire la présentation des gagnants. Merci beaucoup Enzo.
Bonjour à tous, merci d'être si nombreux présents pour cette cérémonie de récompense. Donc aujourd'hui, la cérémonie va se dérouler en quatre temps de présentation. On va avoir quatre gagnants de challenge qui vont nous présenter leurs solutions. Voilà, petit point chiffre. Donc la saison 2024 a été une belle réussite sur le challenge. On a eu 7 challenges de grande qualité qui nous ont été proposés, avec plus de 3000 participants du coup répartis sur ces 7 challenges. Donc 7 challenges cette année, il y en a 11 pour la saison à venir, la saison 2025, avec au total du coup maintenant on arrive à 90 challenges sur la plateforme, donc il y a de quoi faire. Plus de 23 000 participants, plus de 75 000 soumissions, donc on vise les 100 000 soumissions cette année, ce serait l'objectif. Vous aurez un résumé de la cérémonie avec des photos, des noms qui sera publié sur la page LinkedIn du Challenge Data, donc n'hésitez pas à aller la suivre si ce n'est pas déjà fait. Et petite partie remerciement, donc la saison de Challenge Data ne serait pas possible tout d'abord sans les entreprises qui fournissent des sujets de qualité, sans les participants qui fournissent des solutions de qualité à ces challenges, également les bêta-testeurs, donc les personnes qui sont chargées de vérifier les sujets, de les tester, de vérifier si le benchmark est adapté, en partie de l'Institut Louis Bachelier et en partie des doctorants de l'ENS qui s'occupe de cette partie. Également un grand merci à Romaric Gutt pour le développement de la plateforme. Un grand merci à Stéphane Mala et à Kim Viennet pour le soutien et l'accompagnement dans le développement de ces saisons. Et un grand merci également à Dominique Bidois pour l'organisation du cocktail qui aura donc lieu après, juste à la sortie, où donc tous les gagnants, les mails ont été envoyés, donc tous les gagnants et tous les providers sont les bienvenus. Sans plus attendre, on va commencer avec la première présentation. Donc, Mathieu Dino va nous présenter sa solution pour le challenge Redium, qui sera donc conclu par Pierre Manceron de l'entreprise Redium.
Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter ma solution pour le challenge Redium 2024. Donc, déjà, un retour sur qu'est-ce qu'il fallait sur le challenge. Donc, ce qu'on a en fait dans ce dataset, c'est des images de type de gauche, donc des images de parties du corps des computed tomographie, donc a priori des coupes de corps où l'objectif c'est de passer de l'image de gauche à l'image de droite, donc c'est-à-dire que l'on veut identifier des zones qui sont intéressantes, donc probablement des organes, etc. Donc on veut le segmenter, sachant qu'on a 2000 images d'entraînement et 500 images de test. Alors, les difficultés du challenge, c'est qu'en fait, on a assez peu d'informations. On n'a aucune idée de ce qu'on est en train de segmenter. Donc, on a juste des images et leur segmentation, mais on n'a pas, par exemple, je ne sais pas si c'est un foie ou etc. Et le deuxième problème, c'est que dans les 2000 images d'entraînement, il n'y en a que 400 segmentées et 600 non segmentées. Donc, en fait, il y a très peu d'images où on a des vrais labels. Sachant que dans les images segmentées, il n'est pas dit que toutes les structures au sein de l'image soient segmentées. Donc tout ça nous pousse à dire, vu qu'on a très peu de données, il faut utiliser des modèles qui sont pré-entraînés et qu'on va juste fine-tuner. Donc la métrique pour ce challenge, c'est Adjusted Round Index. Globalement, c'est une métrique qui calcule à quel point la segmentation que va sortir notre modèle est proche de la segmentation réelle. Là, par exemple, si on prend RI, c'est donc A, c'est le nombre de. On prend tous les pixels de l'image et on prend du coup les paires possibles. A, c'est le nombre de pixels qui sont dans le même segment dans l'image grande truffe et dans le même segment dans l'image calculée par notre modèle. Et B, c'est les paires de pixels qui ne sont pas dans le même segment dans le grande truffe et qui ne sont pas dans le même segment dans le pixel. Donc en fait, finalement, c'est les paires de pixels qu'on a correctement segmenté ensemble, divisé par le nombre total de paires. Et l'ARI, c'est juste ajusté du hasard. Il y a un modèle du coup, qui était sorti il n'y a pas si longtemps quand le challenge a été proposé, qui est Segment Anything, donc un modèle de méta, qui globalement donner une image et donner un prompt permet de donc s'inventer n'importe quoi comme son nom l'indique. Donc on a voulu essayer ce prompt, ce modèle pardon. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a juste utilisé Segment Anything en utilisant un prompt automatique. Donc l'idée, c'est en gros à Segment Anything, on lui donne une image et un prompt et il nous sort des masques. Et le prompt que l'on avait utilisé, c'est simplement une grille de points. Donc il va nous segmenter, il va segmenter tous les points, toutes les structures auxquelles les points appartiennent sur l'image. Donc on avait déjà 0,35, ce qui est assez élevé. Mais il fallait post-processer parce qu'il y avait beaucoup de structures qui étaient identifiées qui n'étaient pas bonnes, typiquement les coins de l'image, etc., qui n'étaient pas des segments. Mais bon, du coup, ça nous donne une idée de ce qu'on peut faire. Il y a un problème du coup principal quand on utilise SAM, c'est que en fait on va identifier beaucoup trop de choses qui ne sont pas à segmenter. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est à la place d'utiliser un prompt automatique, utiliser prompt de type bounding box de modèles comme YOLO. Donc YOLO, c'est un modèle très connu de computer vision qui permet d'identifier différentes choses dans des images, donc traffic lights, cars, etc. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est tout simplement qu'on va entraîner YOLO à essayer de détecter les structures. C'est-à-dire qu'en fait on prend les images avec les segments et on en extrait des bounding box, et ensuite on entraîne YOLO dessus. Donc en fait, YOLO va devenir bon à détecter les structures. Donc voilà ce que ça donne. Donc en fait, on prend YOLO, donc l'image brute. Ensuite, avec YOLO, on récupère des structures identifiées. Et ensuite, on donne ça en prompt à SAM, donc c'est-à-dire qu'on lui donne l'image et les bounding box, et ça nous sort les segments. Et ça nous donne déjà un score qui est largement plus élevé, donc 0,71. Donc ensuite, l'idée simple, c'est maintenant qu'on a cette pipeline qui fonctionne bien, et que SAM il est juste pré-entraîné, donc maintenant on peut le fine-tuner, SAM. Donc on a 400 images segmentées, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ces 400 segments, et qu'on va entraîner SAM dessus, en sachant qu'en fait on a plus que 400 training data points, parce qu'on en a le nombre de segments par image fois le nombre d'images. Et donc là, ça nous donne un score qui est 0,77 ARI, qui suffit pour être premier, ce challenge. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même voulu essayer d'utiliser les 1600 images non segmentées. Donc on a utilisé toute notre pipeline pour annoter toutes les images qui étaient donc non segmentées. Et ensuite, on a utilisé du coup un autre YOLO, qui est une version plus récente, donc qui fait aussi la segmentation. Et en faisant ça, donc en entraînant sur nos 400 images plus les 1600 segmentées par notre ancienne pipeline, on obtient 0,79, qui est notre score final pour ce modèle. Voilà, donc un récapitulatif. La principale limitation vient de la détection et pas de la segmentation. C'est-à-dire que maintenant, les modèles de segmentation, ce qui n'était pas vrai il y a quelques années, mais maintenant, les modèles de segmentation sont très bons. Donc en fait, le problème, c'est qu'on ne détecte pas très bien les structures. Donc déjà, on peut essayer de faire plusieurs choses. Déjà, on peut bien sûr ajouter plus de données. Ensuite, ce que j'aurais essayé de faire, si j'avais eu plus de temps, c'est de faire du clustering sur les types de structures. Parce que... Plutôt la première image. Ouais, il y en a qui sont très différentes en termes de forme, etc. Et donc, en les classifiant mieux que juste utiliser un seul label structure, on pourrait obtenir de la meilleure détection par YOLO. Et enfin, une dernière chose, c'est... au lieu d'utiliser des boîtes, on pourrait utiliser identifier des points, parce qu'on peut aussi prompter SAM avec des points pour améliorer la segmentation. Voilà.
Donc, bonjour à tous, moi je suis Pierre Manseron, je suis CSO de la société Redium. Donc, c'est nous qui avons proposé ce challenge l'année dernière, et l'année avant aussi. Et ce qui est intéressant dans ce challenge, c'est que, en fait, en médecine, on a l'impression qu'il y a des structures anatomiques qui sont connues. Alors, le foie, les reins, les poumons, effectivement, ils sont toujours là. Le problème, c'est qu'aussi, il y a plein de structures anatomiques qui sont très variables et qui ne sont pas forcément prévues à l'avance, en tout cas, avec beaucoup de variabilité. Et du coup, l'intérêt de cet enjeu-là, c'est de se dire, est-ce qu'on a un algorithme d'IA qui est, disons, deep learning, qui est plus intelligent, qui est capable de comprendre, entre guillemets, en out of distribution, avec des classes qui sont pas connues à l'avance, qui est pas vraiment le cas de la segmentation sémantique classique. Je vais vous donner un exemple, typiquement des patients qui ont des pathologies du foie, une cirrhose du foie due à l'alcool, par exemple, ou un cancer du foie, ils vont avoir de l'eau dans le foie qu'on appelle de l'acide, et ce qu'on appelle l'acide, c'est pas présent de base chez un patient. C'est pareil pour une tumeur, pareil pour une fracture un peu compliquée avec des éclats, par exemple des bouts d'os qui traînent, entre guillemets, c'est des classes qui ne sont pas prévues à l'avance. Et donc, ce qui est intéressant avec ce challenge, c'est comment être capable de, en fait, analyser de nouvelles classes pas basées sur, en fait, leur signification sémantique, ce qu'en général fait une segmentation semantic segmentation. D'ailleurs, c'est même dans le nom. Là, c'était plutôt d'essayer de se dire, même si je ne comprends pas ce que c'est, je vois qu'il y a cette structure anatomique qui est présente dans le patient. Typiquement, je vois qu'il y a, alors, du coup, de l'eau. Et comment être capable, du coup, de le segmenter? Parce que finalement, même un être humain qui connaît pas, qui sait pas ce que ça veut dire médicalement, il saura vous dire, vous tracer les contours de cette eau qui est présente dans le ventre, ou cette lésion, ou de ces bouts d'os qui sont présents dans le patient. Donc ça, c'est un problème qui est pas encore résolu en médecine, hein, et même en plus général en computer vision. C'est un problème qui est assez proche, en fait, finalement, de ce qu'on appelle aussi, de manière en détection, ce qu'on appelle le open vocabulary, c'est-à-dire, en fait, capable d'avoir un nombre de classes qui est pas fixé à l'avance. Du coup, nous, cette année, on a encore poussé aussi un peu le challenge avec une autre variation. Donc, j'ai mon collègue Corentin qui vous a présenté la semaine dernière notre dernière mouture du challenge. Voilà.
Merci beaucoup Pierre, et donc encore bravo à Mathieu qui a donc remporté ce challenge avec son binôme. On peut également applaudir les autres gagnants, donc son binôme Yvan Lefebvre qui n'était pas présent, Baptiste Callard, Hugo Robert, Julien Ashdenbaum, Gaëtan Blondel et Sacha Cruz. Donc on peut applaudir ces 5 gagnants du challenge. Et donc à présent, on va enchaîner avec le challenge proposé par SLB. Donc on va avoir une présentation de la solution d'Andrea Hyperkovic. Et donc on aura Anna Escobar et Anne-Maëlle Parnèche qui nous concluront cette intervention.
Bonjour. Je vais commencer en parlant un petit peu de jeu de données. Alors SLB, c'est une entreprise énergétique. Et le défi, il se concentre sur le problème des puits de pétrole. Oil wells. On a le problème, on a des images ultrasonores et ce qu'il faut faire, c'est faire une segmentation sémantique des faits. Vous pouvez voir les exemples des images ultrasonores et aussi en pair, on a des labels, des étiquettes, où on peut voir les pixels qui sont tagués comme celui avec un défait. On a commencé avec presque 10 000 de paires d'images et labels. Et les images sont en grayscale. Vous pouvez aussi remarquer qu'il y a aussi beaucoup de bruit sur les images. Mon approche pour ce défi, c'était de faire une architecture similaire à UNET. Mais comme vous pouvez voir, il y a quelques grandes différences. Tout d'abord, un contraste, c'est les dimensions des images. Ils sont 36 par 36, alors c'est pas si facile d'aller très profondément comme dans le cas de UNET. Mais dans tout cas, j'ai implémenté de downsampling et de upsampling, et chaque niveau contient 3 convolutions parce que j'ai pas eu beaucoup de pixels à gaspiller. J'ai évité aussi d'implémenter max pooling. Au lieu de ça, j'ai utilisé une convolution pour diminuer les dimensions des images. Oui, pour initialisation, j'ai utilisé le Kaiming, distribution normale de Kaiming, parce que empiriquement, elle a de bonnes performances pour le défi de segmentation sémantique. De plus, j'ai fait beaucoup d'augmentations, retournements horizontaux et verticaux. Et j'ai implémenté ça pour toutes les images, pour toutes les paires. Et comme ça, j'ai eu à la fin presque 30 000 exemplaires pour entraînement. Et à la fin, ce que j'ai atteint, c'est le score de 67 pour index Jacquard ou Dice score, aussi appelé intersection over union. Et voilà les résultats. Vous pouvez voir à gauche deux exemples. À gauche, vous avez le masque, le ground truth pour cette image. Au milieu, vous avez l'image en grayscale de ultrasonique. Et à droite, vous pouvez voir la prédiction de mon modèle. Vous pouvez voir que on a réussi de ignorer le bruit, mais vous pouvez voir que la segmentation des pixels, c'est un peu difficile, surtout sur une résolution tellement petite. À la fin, Pour conclure, pour moi, cette défi, le plus important truc, le plus important chose que j'ai appris pendant cette défi, c'est pour moi, c'était le premier projet que j'ai fait systématiquement dans l'approche de machine learning. On fait des hypothèses et puis on teste avec les scores. Vous pouvez voir, j'ai eu beaucoup de soumissions. Ce sont les 10 premiers. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est... Ah oui, aussi, vous pouvez voir les skip connections. Ils sont très importants et ils ont aidé beaucoup dans la précision. À la fin, oui, je n'ai pas mentionné les trucs qui n'ont pas marché. Surtout, j'ai expérimenté avec Dropout, mais ça n'a pas marché parce que probablement le réseau est trop petit. Et aussi batch normalization. Pour améliorer de plus, j'aimerais essayer avec expérimenter avec post-traitement parce que pour l'instant j'ai implémenté juste un simple seuil de 0,5 et de plus augmenter la profondeur de réseau et aussi combiner avec Dropout. Merci.
Bonjour à tous, moi c'est Anne-Maëlle Barnech. Je fais partie de SLB qui a proposé du coup, le challenge de corrosion. Et déjà, je voulais remercier tous les participants qui ont proposé plein de choses. Il y a eu énormément de très bons résultats et on a beaucoup apprécié la participation. Je voulais vous dire aussi que du coup, c'est un projet qui, nous, est en cours dans l'entreprise et c'est un projet qui actuellement est commercialisé pour l'ensemble de nos clients. Et on a une première version qui a des performances un petit peu moins bien et on est en train d'améliorer actuellement pour obtenir de meilleures performances. Donc, on a reçu plusieurs propositions, celle-ci en particulier et d'autres participants sur lesquels on travaille actuellement pour trouver cette corrosion et permettre, avec des données qui nous sont un peu plus confidentielles, d'améliorer les performances. Voilà, merci.
Merci beaucoup Anne-Maëlle, merci beaucoup Andrei. Pareil, je vais vous citer les autres gagnants de ce challenge donc qui ne sont pas forcément présents. On avait Thomas Monte-Allegré, Jérôme Gaveau, Amine Noisser et donc Andrei Perkovic. Donc encore un grand bravo à vous. On va passer déjà à la troisième présentation de la matinée. Donc Mathieu Gasset va nous présenter sa solution sur le challenge proposé par CFM. Et donc Richard Benetton viendra conclure ensuite cette présentation.
Bonjour, je suis Gasset Mathieu et je vais vous présenter ma solution pour le challenge CFM. Alors d'abord, je vais peut-être rappeler un peu la problématique. En fait, du coup, on devait faire de la classification multiclasse. Chaque classe était une action et chaque action était associée à une séquence. Donc le but, c'est on nous donne des séquences et on doit identifier et dire c'est telle classe, donc c'est telle action, etc. Donc mon approche, c'est complètement du deep learning en deux parties. Alors la première partie, c'est du supervisé classique. En quoi ça consiste? C'est d'abord, je prends les données. Je fais très peu de feature engineering parce que le réseau de neurones va apprendre de par lui-même. Il va un peu créer ses propres features. Donc il n'y a pas vraiment besoin de faire beaucoup de feature engineering pour mon architecture. Donc, le premier bloc de l'architecture, c'est un WaveNet encoder. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un WaveNet encoder, pour ceux qui ne savent pas? C'est un modèle qui a été introduit par Google DeepMind en 2017-2016 environ, et c'était principalement pour l'audio, en fait. Donc là, ça a été adapté pour ce problème. En quoi ça consiste? C'est en fait des réseaux de neurones convolutionnels. On fait plusieurs couches, on fait des skip connections, et on introduit la dilatation. En fait, c'est des espacements. Donc, pourquoi ce premier bloc, en fait? Eh bien, j'ai envie de penser que dans chaque séquence, il y a des informations qui peuvent nous dire, qui nous caractérisent l'action. Donc, il y a cette idée dans les réseaux de neurones convolutionnels qu'on extrait l'information. Donc, la première partie, le premier bloc, WaveNet, extrait en fait l'information dans les séquences permettant de caractériser les actions. La deuxième partie, c'est que dans chaque séquence, on a une composante temporelle. Donc, dans les séquences, on voit la composante temporelle pour chaque action. Donc il va falloir exploiter cette composante temporelle, et pour ça j'utilise un BLSTM. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va encoder l'ordre, encoder la temporalité à travers des time steps, pour donc exploiter cette temporalité. La troisième partie, c'est de l'attention. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est, en fait, je vais pondérer chaque time step avec des poids. Donc, pourquoi faire ça ? C'est parce que il y a cette idée qu'à certains moments, c'est plus important que d'autres, en fait, pour identifier l'action, tout simplement. Ensuite, tout est donné dans une couche dense encodeur, et ensuite, on fait une sortie, un neurone de sortie pour toutes les classes. Bon, ça, c'est la première partie, c'est du supervisé. Avec ça, on obtenait 56-57% en accuracy, la maîtrise, c'était l'accuracy. Mais pour gagner, du coup, j'ai dû faire une deuxième partie. Donc, j'ai fait une approche semi-supervisée. Qu'est-ce que c'est ? C'est que l'architecture, le réseau neurone, va apprendre de ses prédictions. Le problème, en fait, il y a plusieurs problèmes face à ça, c'est que mon architecture n'est pas parfaite, elle fait beaucoup d'erreurs. Donc, si jamais je lui fais apprendre ses prédictions, il va apprendre de ses erreurs. Et donc, en fait, ça va faire de la propagation d'erreurs. Et donc, en fait, il va être de plus en plus mauvais. Parce qu'il va prendre pour acquis des erreurs, en fait, tout simplement. Donc, la première étape, c'est de réduire le bruit. Le bruit, c'est les erreurs. Donc, comment on fait ? Eh bien, mon architecture sort des probabilités estimées P chapeau pour chaque classe, des probabilités d'appartenance de classe. Donc, j'ai envie de penser, j'ai fait un critère très simple, hein, c'est un hyperparamètre que je prends, que j'optimise, qui définit le seuil, en fait, hein, de la probabilité. C'est-à-dire, on a envie de penser que plus la probabilité est élevée, plus il y a de chances qu'il se trompe moins. Donc, on optimise cet hyperparamètre pour nettoyer un peu les erreurs. Une fois qu'on a fait ça, le problème, c'est que il y aura un problème de classe, puisque mon modèle, mon architecture, est très confiant sur certaines classes, mais très peu confiant sur d'autres. Le problème, si je lui fais apprendre ses prédictions, c'est que je vais introduire moi-même un déséquilibre de classe, en fait, dans les données. Et comme la métrique, c'est l'accuracy, c'est pas bon, puisque mon modèle va donc overfitter, en fait, hein, sur les classes prédominantes. Pour ça, je fais du sous-échantillonnage, c'est pareil, en fait, je fais un hyperparamètre que j'optimise, qui me permet de nettoyer les classes trop prédominantes. Je concatène les données principales du training set avec ces prédictions, je réentraîne, et ensuite je fais une dernière étape, qui est la correction de confiance. Qu'est-ce que c'est ? C'est qu'en fait, puisque mon modèle a appris de ces prédictions, il va falloir que je corrige sa confiance, puisqu'il va devenir beaucoup trop confiant, et ses performances ne seront pas réalistes. Qu'est-ce que j'appelle des performances réalistes ? C'est simplement le modèle sans le pseudo-labeling, ça s'appelle comme ça, du coup, sans cette appréhension à partir de ses prédictions. Donc, je regarde ses performances réelles et je les calque sur les classes après avoir réentraîné mon modèle. Et je le refais une deuxième fois, en étant encore plus strict sur les hyperparamètres. Donc, ce n'est pas les mêmes hyperparamètres, je réoptimise, mais je suis plus strict sur ces hyperparamètres. Et ça permet ensuite d'obtenir le résultat. Donc, c'était 63% accuracy sur le classement privé. Bon, on pouvait, je pense, encore un peu améliorer les résultats. En optimisant encore plus les hyperparamètres, je pense que mes résultats sont en validation, sont dans un extrême local, puisque je n'ai pas passé beaucoup de temps à optimiser les hyperparamètres. On peut trouver sûrement un extrême local meilleur. J'ai pas vraiment cherché plus que ça, mais si j'avais plus de temps, je pense que c'est ce que je ferais. J'optimiserais plus les paramètres et peut-être que je continuerai sur cette approche.
Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai pas encore tout compris la fin, mais c'est bien. Le but de ce challenge était vraiment de ne pas faire de prédiction de prix comme d'habitude, mais donner des séries temporelles et juste de l'identification. Donc c'était, on pouvait récupérer des solutions classiques d'autres industries et pas des choses logiques. Et le but aussi était de savoir si des features simples ou du gros machine learning entre guillemets allait gagner. Bon, a priori, on a du machine learning avancé. Et aussi, la solution finale ressemble un peu à celle de l'année dernière où il fallait se recalibrer sur les données, sur chaque confiance, sur les 24. L'année dernière, il y avait 3 classifications, cette année, 24. Mais bon. En tout cas, merci à tous les candidats. On voit que les 3 premiers se dégagent clairement du reste et ça donne confiance.
Merci encore Richard et Mathieu. Donc pour le challenge CFM, on avait également Brighton, Mufa, Émile Clastre, Tom Maillasser, Guillaume Magnan et Axel Maté qui ont très bien performé. Mais c'est Mathieu Gassé qui a remporté ce challenge. Donc encore félicitations à vous tous. Merci.
Et on arrive déjà, on est un petit peu en avance, on arrive déjà à la dernière présentation de la matinée. Donc c'est Élie Jabour qui va nous présenter sa solution pour le challenge ELMI de prédiction de prix de l'électricité. Donc Élie qui a remporté le challenge et qui sera conclu par Hippolyte Coste qui représentera ELMI.
Bonjour tout le monde. Je suis Élie Jabour, je suis chercheur quantitatif, je travaille chez Eclipse. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma solution pour l'ELMI Challenge, prédire les prix d'électricité. C'est plutôt prédire un spread entre deux marchés d'électricité. Donc, en fait, quand on achète de l'électricité, on achète une période de livraison. Dans ce challenge, on parle des périodes horaires. Et en fait, on peut acheter l'électricité la journée d'avant. C'est ce qu'on appelle le marché day ahead. C'est un marché en chair, donc ce sont des prix fixes. Et après la fermeture de ce marché, un autre marché ouvre, c'est le marché intraday. C'est un marché continu avec des order books pour tous les produits. Et on peut acheter de l'électricité la journée même dans ce marché. Le but, c'est d'utiliser des features qui sont disponibles à 11h59, juste avant la fermeture du marché day ahead, pour prédire le spread entre ces deux marchés. Et si on arrive à prédire le spread avec une accuracy qui est meilleure que 50%, on peut faire une strat de trading là-dessus. Les features qu'on peut utiliser et qui sont dispo à ce moment-là, ce sont des prédictions de consommation de l'électricité et des prédictions de production. Donc on a la production totale de l'électricité, enfin la consommation totale de l'électricité en France, toujours des prédictions, et on a la production de l'électricité à partir du charbon, à partir du gaz, à partir du nucléaire, à partir les renouvelables, donc les wind et solar. Mais ici, c'est pas nous qui contrôlons la production, c'est plutôt la nature. Donc on ajoute l'écart type pour ces prédictions, c'est important. Et la dernière feature à laquelle on avait accès, c'était la prédiction des prix des head. Je ne vais pas parler beaucoup de cette feature parce qu'il y avait 9000 données manquantes parmi 10000. Donc il n'y avait pas beaucoup d'espoir pour ce feature-là. Et le but, c'est de prédire le spread entre le VWAP du marché intraday, parce que c'est un marché continu, et les prix fixes du marché day ahead. Il y avait pas mal de données manquantes parmi les données. Par exemple, pour le feature consommation totale, prédiction de consommation totale, il y avait 1000 données manquantes. Au lieu de les juste drop avec Pandas, ce qui serait dommage parce qu'on a juste 10000 points de données d'entraînement, on peut les remplir, mais on peut faire plus intelligemment que juste remplir par une ligne avec la moyenne ou la médiane. On peut utiliser la périodicité, parce que c'est chaque jour, il y a beaucoup de consommation à midi, à 17h quand les gens rentrent, et les autres heures, les choses se reproduisent. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la moyenne du mois d'avant, la moyenne du mois d'après, pour une journée, et je l'ai rempli comme ça. Je pense que c'est mieux de faire ça. Même chose pour les features solaires, c'est aussi périodique, donc on peut voir, on peut parfaitement juste reproduire une journée d'avant ou une journée d'après, au lieu de juste remplir par une ligne qui serait égale à zéro. Alors vu qu'on est en train de prédire un spread, ça serait intéressant de juste faire une approche très simple et de visualiser le spread en fonction de chaque feature. Si on remarque que le spread n'est pas centré, sa distribution n'est pas centrée, cela veut dire que le marché n'est pas très bien arbitré. Et il y a des arbitrages très simples à faire. Donc, ce n'est pas le cas, le marché est pas mal arbitré. Il n'y a pas beaucoup d'arbitrage dans le marché. Et on peut voir que par rapport à chaque feature, le spread est centré. Même pour les features renouvelables. Et en fait, de cela, on peut conclure que les modèles linéaires ne vont pas très bien fonctionner parce qu'ils vont tous avoir des weights qui sont égales à zéro. Ou si ce n'est pas des weights égales à zéro, cela veut dire qu'il y a des heures un peu particulières, des données aberrantes. Une conséquence, c'est que soit on doit profiter des modèles linéaires, soit on doit faire des nouvelles features dont le spread n'est pas centré, soit on utilise des modèles basés sur des arbres qui ont tendance à bien fonctionner quand les modèles linéaires ne fonctionnent pas très bien. Je n'ai pas expérimenté avec les réseaux de neurones parce qu'on avait juste 10000 points d'entraînement. Je serais intéressé si les autres participants, de savoir si les autres participants ont réussi à avoir des résultats avec des réseaux de neurones. Alors, si on veut tellement faire des nouvelles features, on a plusieurs choix. Le premier choix, c'est du période de livraison. On peut juste extraire l'heure, extraire la date exacte. Sinon,
Parmi les features, vous remarquez, on a production par gaz, production par nucléaire, production par wind. Quand on regarde ça, on a envie de juste de les sommer et d'avoir un feature qui est juste production totale et un feature consommation totale. Ça fait sens. Et sinon, juste au moment de prédiction, on n'a pas juste accès au feature qui correspond à chaque heure. Parce qu'on prédit tous les heures au même moment. Donc on peut en fait donner au modèle des informations liées à des autres heures de livraison. Donc par exemple, au lieu de juste donner la prédiction de consommation totale en France pour 7 heures de livraison, on donne encore la moyenne de consommation totale en France pour toutes les autres heures. Du coup, un bon pratique pour savoir si des nouvelles features ajoutent du signal, plus de signal que du bruit, c'est de tester, surtout quand on travaille avec des modèles basés sur des arbres, c'est de travailler avec Random Forest, parce qu'il est plus robuste contre l'overfit que des autres modèles. Et il y a des outils comme Feature Importance qu'on peut utiliser pour savoir si cette feature est intéressante ou pas. De mon côté, j'ai juste utilisé les journées de la semaine, donc lundi, mardi et mercredi. Je n'ai pas utilisé des autres features parce que je n'ai pas trouvé que ça ajoutait plus d'informations. Alors, le modèle que j'ai utilisé XGBoost. Donc, j'ai utilisé le regressor et le classifier. Je vais revenir sur comment je l'ai combiné. Bien sûr, quand on utilise XGBoost, il est très susceptible d'overfitter. Il faut faire beaucoup d'attention sur des paramètres comme le nombre d'arbres, le profondeur de chaque arbre. Et il faut éviter surtout de faire une calibration de paramètres très grande et d'essayer beaucoup de paramètres parce que comme ça on tombe dans le piège. Il faut vraiment juste limiter, avec un peu d'expérience, limiter l'intervalle auquel on essaie chaque paramètre. Pour la calibration des paramètres, j'ai fait une cross-validation avec Time Series parce que je ne veux pas m'entraîner sur le spread d'aujourd'hui pour prédire le spread d'hier. Il y a pas mal d'autocorrélations entre les spreads. Donc, il faut faire ça. Et surtout, on utilise tout le temps la métrique utilisée dans notre challenge, qui est la weighted accuracy. Et bien sûr, on évite autant que possible de donner beaucoup de features à notre modèle, surtout à XGBoost. Alors, du coup, le regressor, je l'avais utilisé pour prédire tous les spreads. C'est juste, il n'y avait pas quelque chose de compliqué ici. Pour gagner le challenge, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de spikes qui affectent le score final. Et je voulais essayer de prédire les spikes. Du coup, pour moi, j'ai défini un spike parmi les spreads, juste quand le spread en valeur absolue est supérieur à 45. Mais j'avais un problème, c'est que quand j'ai essayé de prédire les spikes positifs, les spikes négatifs et les non-spikes, j'ai pas arrivé à prédire les spikes négatifs. Je pense la dynamique du marché se casse quand il y a beaucoup de spikes négatifs et j'ai pas arrivé à les prédire. Par contre, les spikes positifs, il y avait pas de problème. Donc, comment j'ai combiné les modèles? J'ai fait confiance au classifier juste pour prédire les spikes positifs et pour tous les autres instants, j'ai fait confiance au regressor. Alors, pour conclure, j'aurais bien aimé avoir la feature Predicted Day Ahead Price, pas avec beaucoup de données manquantes. Je pense que ça peut ajouter j'aurais été intéressé pour savoir si ça ajoute de l'information. Sinon, dans le framework de ce challenge, on ne peut pas utiliser les anciens spreads pour prédire les nouveaux spreads. Dans la vraie vie, ça peut marcher. Et je pense que les spreads auxquels on a accès avant le moment de prédiction peuvent ajouter pas mal d'informations. Sinon, c'était un challenge incroyable et j'ai pu pratiquer le machine learning et j'ai appris pas mal de choses sur le marché de l'électricité. Donc voilà, je vous remercie.
Bonjour à tous. Merci beaucoup à tous les participants pour ce challenge et finalement aux résultats qu'ils ont présentés. Donc ce genre de solution nous intéresse tout particulièrement parce que ça nous permet, certes, de faire quelques arbitrages sur le marché, mais surtout d'optimiser au mieux en fait un parc de production qui, à la base, ou en tout cas historiquement, n'est pas forcément très flexible. Et aussi, en fait, on a souvent tendance dans les marchés de l'électricité ou du gaz ou d'autres marchés qui sont très physiques à se baser sur des solutions qui sont testées, éprouvées. Et en fait, on a du mal compte tenu du fait qu'on a beaucoup d'historique en fait de modèles qui sont des modèles déterministes à se lancer sur des modèles à base de machine learning. Donc Voilà, enfin, j'ai noté quelques points, notamment d'amélioration sur tout ce qui pouvait être ajouté, quelques features, etc., liées au prix d'IEL. Là, vraiment, ce qui nous intéressait dans ce challenge, c'était de voir ce qui était capable d'être fait vraiment avec les features de base. Donc, on est quand même très satisfait. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Donc, du coup, c'était la dernière présentation donc, pour le challenge ELMI. On peut féliciter donc Élie Jabour qui a gagné ce challenge, également Sylvain Landrac, Théodore Tarid, Abel Clarins et Aurélie Bacchi. Félicitations à eux. Du coup, il y a donc trois challenges où on n'a pas pu avoir de présentation. Donc, il s'agit du challenge de HRflow. Donc, on félicite Kevin Jeff, Fogang Fokoa, Rodolphe Bafouatika, Jaurès Ememanga, Pierre Jacquin, Pablo Conte et Nicolas Play pour ce challenge. Pour le challenge QRT, donc le challenge QRT qui a accumulé énormément de participation sur la prédiction des scores de matchs de foot. On peut féliciter Younes Baous, Shangguan Zhang, Hugo Puybarro et Arthur Windels qui ont terminé dans le top 5 de ce challenge. Et enfin, pour le challenge Transilien SNCF, un grand bravo à Esteban, Christiane, Baptiste Bou, Jean-Baptiste Imbert, Hector Perlin et Mathieu Gassé qui a donc figuré dans le top 5 de deux challenges. Donc encore un grand bravo à tous ces participants. Et donc pour terminer la matinée, donc pour les gagnants, enfin ceux qui faisaient partie des top 5 à qui j'ai envoyé un mail, les providers et les personnes conviées, le cocktail aura lieu en sortant à gauche. Pour les gagnants, enfin les membres du top 5, il va falloir aller voir votre le provider, donc la personne de l'entreprise qui vous remettra votre petit diplôme, certificat. C'est pour ça que j'ai affiché les photos des providers qui ne sont pas montés sur scène, que vous puissiez les identifier. Encore un grand merci à tous. Et donc, je vais laisser la conclusion au professeur Mala.
Merci beaucoup. À nouveau, félicitations pour tous les gagnants. Et je voudrais surtout remercier beaucoup Enzo qui a organisé non seulement tous les challenges de la saison passée, mais aussi cette saison. Merci beaucoup à nous.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.